Bonjour à toutes et à tous. J'espère que ça va, vous n'avez pas trop chaud? Un petit peu, non, voilà. On a fait le nécessaire pour que, en tout cas, ça soit plus agréable. Vous êtes-vous déjà trompé de chemin? Avez-vous déjà emprunté une voie pour vous rendre compte, au bout d'un moment, que vous ne suiviez pas le bon chemin? Que vous alliez même à l'opposé de votre itinéraire? Autre situation, en voiture, vous êtes-vous déjà trompé de route? Vous étiez persuadé que c'était par là et votre copilote, eh bien, vous disait non, c'est par là. Sûr de vous, vous vous êtes engagé dans cette voie avant de constater que l'autre avait raison. Je pense que c'est des situations assez communes qu'on peut retrouver assez facilement et nous rendre compte que. Oui, parfois il nous arrive de nous tromper de chemin, mais au bout de combien de temps nous nous en rendons compte? Alors quel est le parallèle avec le texte que nous venons de lire? Il semble qu'à l'époque de Paul, mais c'est toujours le cas aujourd'hui, bon nombre d'Israélites s'étaient engagés dans une voie qui ne les conduisait pas au salut. Paul dit bien qu'ils sont zélés pour Dieu, mais sans comprendre ce que Dieu veut pour eux, à savoir qu'ils abandonnent cette voie qui les éloigne du salut pour emprunter sa voie, celle qui passe par Jésus-Christ. Oui, c'est là le problème. Les Israélites n'ont pas reconnu en Jésus leur Messie promis, n'ont pas mis leur confiance en lui. Ils ont préféré leur compréhension des choses, leur chemin, à savoir le salut en obéissant à la loi de Dieu. L'intention est peut-être louable. Après tout, il s'agit d'obéir à Dieu. Mais l'entreprise est vouée à l'échec, comme nous allons le voir. Pourtant, comme l'apôtre Paul l'exprime au début du chapitre 10, il désire tellement que ses compatriotes empruntent l'autre voie, l'autre route, celle de la foi en Jésus, la seule qui conduit au salut. Et dans une large section, déjà dans le chapitre précédent, Paul a exprimé que les promesses de Dieu se sont bien réalisées pour ceux qu'il a choisis. Dieu fait grâce à qui il veut, et nous avions terminé sur ces versets du prophète Ésaïe qui évoquait un reste que Dieu sauve au sein du peuple d'Israël. Donc pas tout Israël, mais un reste. Donc ce n'est pas tous les Israélites qui sont sauvés, mais un reste seulement. Voilà pourquoi si peu ont cru. Mais Paul ne s'arrête pas à l'élection de Dieu. Il voit chez ses compatriotes ce qui explique leur refus de l'Évangile, parce que le problème vient d'eux. Et il nous montre dans le texte de ce matin qu'ils sont responsables. Responsables de leur situation, responsables de leur perdition. Et comme précédemment, eh bien, sa démonstration va reposer sur les textes de l'Ancien Testament. Les propos de Paul nous permettent par la même occasion de nous questionner. Avons-nous emprunté la bonne voie? Celle que Dieu signale. Et il est important que je le dise, il ne va jamais de soi pour une personne qui fréquente l'Église, même depuis des années, qu'elle soit forcément chrétienne, qu'elle ait forcément la foi. Cela ne va pas de soi. C'est pour cela que je pose cette question. Est-ce que nous empruntons la voie que Dieu signale? C'est pourquoi j'aborderai ce texte de trois manières. D'abord, en évoquant une voie sans issue, qui est la voie par les œuvres ou la voie par la loi. Ensuite, la seule voie qui est possible, c'est-à-dire la voie qui conduit à la foi en Christ. Et puis, l'obstacle. Il y a un obstacle sur la voie qu'on appelle l'incrédulité. D'abord, cette voie sans issue, quelle est-elle? Avez-vous déjà reçu une convocation pour comparaître au tribunal? Mais savez-vous qu'il est prévu dans notre avenir, à tous, que nous comparaîtrons devant Dieu? Nous ne pourrons pas, lors du jugement dernier, nous échapper ou nous absenter ce jour-là. Non seulement nous serons convoqués, mais nous devrons bel et bien être présents devant notre juge et créateur. Et nous attendrons notre verdict. Condamné ou justifié? Qu'est-ce que vous préférez ? Condamner ou déclarer juste ? Alors évidemment, déclarer juste, je l'espère. Israël aussi cherchait une telle justice. Israël aussi voulait être déclaré juste, voulait l'approbation de Dieu. Et pourtant, dans la série des renversements, Paul parle des non-juifs qui ne se préoccupaient pas du tout de cette justification et qui l'ont obtenue. C'est ce que nous lisons à partir du verset 30, et je lirai dans la version Semeur. Que dire maintenant ? Voici ce que nous disons. Les païens qui ne cherchaient pas à être déclarés justes par Dieu ont saisi cette justice. Mais il s'agit de la justice qui est reçue par la foi. Les Israélites, eux, qui cherchaient à être déclarés justes en obéissant à une loi, n'y sont pas parvenus. Pour quelle raison ? Verset 32. Parce qu'ils ont cherché à être déclarés justes, non pas en comptant sur la foi, mais comme si la justice pouvait provenir de la pratique de la loi. Voilà l'erreur commise par les Israélites. Penser qu'en suivant les commandements de Dieu, ils allaient être déclarés justes par Dieu, sur la base seule de leur obéissance. Quelle erreur ! C'est finalement rechercher un salut par les œuvres, un salut par les mérites même. Après tout, ce qu'on finirait par vanter devant Dieu, c'est notre obéissance. Quelle erreur ! Mais en fait, il se trouve que cette voie sans issue, est inefficace. Et ailleurs, Paul dit aux Galates, Galates chapitre 2, verset 16, « Nous aussi, nous avons cru en Christ Jésus afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nul, aucun, personne, nul ne sera justifié par les œuvres de la loi. » Personne, parce qu'il aura obéi à la loi de Dieu, ne sera justifié. Ça peut nous étonner, hein, alors qu'on insiste tant sur l'obéissance à Dieu. Et pourtant, ce n'est pas par cette voie-là que Dieu déclare juste. Pourquoi est-ce ainsi ? Eh bien, tout simplement parce qu'aucun d'entre nous n'a réussi à obéir parfaitement à la loi de Dieu. Il faudrait en fait, pour pouvoir obtenir la vie, la justice par l'obéissance, il faudrait en fait une vie sans péché. Et cette vie, ce n'est pas la nôtre. Ce n'est pas la vôtre, ce n'est pas la mienne. Nous le savons bien. Et nous avons abordé il n'y a pas si longtemps les 10 commandements. Et cela a suffi pour établir notre culpabilité, pour établir nos défaillances, nos échecs. Personne n'arrive à toujours être en règle avec la loi de Dieu. Voilà le constat. Aucun pécheur ne peut le prétendre. Donc, chercher à être sauvé en obéissant à la loi de Dieu ne conduit pas à la justice, mais conduit à la condamnation. Vous voyez un petit peu le comble et le paradoxe. Chercher à être sauvé en obéissant à la loi de Dieu ne conduit pas à la justice, mais à la condamnation. C'est l'erreur de ceux qui considèrent, par exemple, le christianisme comme une religion de règles à suivre. Il faut faire telle ou telle chose et nous serons en règle avec Dieu. Non, ça c'est une erreur de compréhension. Ils pensent pouvoir gagner leur salut, obtenir le bon verdict s'ils ont bien suivi les règles. Si je viens chaque dimanche à l'église, si je lis tous les jours la Bible, si je prie avant chaque repas et quelques autres moments dans la journée, alors je mets toutes les chances de mon côté pour obtenir une place au paradis. Eh bien, tout cela est erroné. Au jugement dernier, Jésus leur dira « recalé, condamné ». Parce qu'ils ont emprunté la voie sans issue, la mauvaise route. Ils ont ignoré la voie que Dieu leur indiquait. Non, c'est par là. Ils n'ont pas écouté le copilote. Non, c'est par là. Ils ont ignoré que la justice de Dieu s'obtient par la foi et non par les œuvres. Et Paul poursuit sur l'erreur des Israélites en mentionnant deux textes combinés d'Ésaïe. Voici ce que nous lisons. Ils ont buté contre la pierre qui fait tomber, conformément à ce que dit l'Écriture. Moi, je place en Sion une pierre qu'on heurte, un rocher qui fait trébucher. Celui qui met en lui sa confiance ne connaîtra jamais le déshonneur. Voilà la pierre qu'ils ont trouvée sur leur chemin et qui les a fait trébucher. L'apôtre Pierre est plus explicite en identifiant cette pierre à Christ. Cette pierre-là dont il est question dans le passage d'Ésaïe, bien sûr, cela renvoie à Christ. C'est cette pierre-là que Dieu pose en Sion. Oui, c'est Christ qui est la pierre au double emploi. Certains trébuchent dessus et d'autres s'appuient dessus. Pour les Israélites convaincus de leur voie, Christ est devenu, fini par être un obstacle sur leur chemin. Au lieu de se confier en lui et ainsi d'être justifiés, ils se sont confiés en eux et seront honteux au jour de leur jugement. Et si un proverbe dit qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, il est tout à fait faux de prétendre qu'on n'est jamais mieux sauvé que par soi-même. On n'est jamais mieux sauvé. On n'est jamais mieux sauvé que par soi-même. Non, c'est faux. L'erreur que nous pouvons commettre est de faire dépendre notre salut de nos accomplissements, du bien que nous avons fait, de l'amour que nous avons eu pour notre prochain. Lorsque nous serons jugés par le Seigneur, c'est pour la voie que nous aurons empruntée que nous serons jugés. Ai-je recherché la justification par mes œuvres ou par la foi en Jésus-Christ ? Et il faut avouer qu'il y a parfois ce questionnement, ce doute, cette réalité dans la vie de celles et ceux qui confessent le nom de Christ. Parfois, il faut l'avouer, nous comptons davantage sur l'accomplissement de ce que nous faisons. Surtout lorsque nous le faisons bien. Dieu ne peut qu'approuver, Dieu ne peut que nous accorder le salut en retour. Mais c'est faux. C'est faux, c'est la mauvaise voie, c'est la voie sans issue. Paul désire tellement que les Israélites soient sauvés, et il prie pour ça, il le dit, il prie pour ça. Pour ces Juifs qui sont incrédules, il prie pour eux. Parce que oui, c'est Dieu qui a le pouvoir de les sauver. Ce n'est pas parce que beaucoup ont rejeté Christ qu'il ne faut pas continuer de prier pour eux. Ce n'est pas parce que dans notre entourage, on rejette Christ que je vais arrêter de prier pour eux. Nous comptons sur la grâce surabondante de Dieu. Et Paul aussi comptait sur le Dieu qui fait grâce à qui il veut, aux Juifs comme aux non-Juifs. Et voici ce que nous lisons au verset 3 et 4. En méconnaissant la manière dont Dieu déclare les hommes justes et en cherchant à être déclarés justes par leurs propres moyens, ils ne se sont pas soumis à Dieu en acceptant le moyen par lequel il nous déclare justes. Car Christ a mis fin au régime de la loi pour que tous ceux qui croient soient déclarés justes. Comme nous allons le voir dans un instant, Dieu n'a prévu qu'une seule voie, qu'un seul moyen, qu'une seule manière d'être déclaré juste. Et prendre un autre chemin, c'est donc un acte de désobéissance. Emprunter un autre chemin que celui que Dieu propose, que Dieu offre, que Dieu nous demande d'emprunter, c'est donc un acte de désobéissance. Ce n'est pas juste se tromper de voie, c'est désobéir à Dieu. C'est le comble pour des personnes qui sont attachées à la loi, comme les Israélites. Or, lorsque Jésus est venu, il a mis fin au régime dans lequel se trouvaient les Israélites. Et dont voici le principe dans Lévitique chapitre 18, verset 5. Celui qui appliquera ses commandements vivra grâce à cela. Ça, c'était le régime de la loi, effectivement. L'Israélite était tenu d'obéir à toute la loi s'il voulait obtenir la vie. Et nous avons dit tout à l'heure que c'était impossible pour un pécheur. Un pécheur ne peut pas obéir à toute la loi. L'Israélite devait comprendre que la loi lui disait plutôt qu'il était en échec et qu'il avait besoin que la solution vienne d'ailleurs. Il devait continuer de compter sur Dieu qui promettait un libérateur. Et quand Jésus est venu, il a vécu effectivement parfaitement comme la loi de Dieu l'exigeait. Contrairement à nous, il a respecté les 10 commandements. Jésus est le seul à avoir suivi le principe de Lévitique 18:5. Celui qui appliquera ses commandements vivra grâce à cela. Et pourtant, c'est Jésus qui est mort. Jésus qui est mort sur la croix, en offrant lui-même sa vie innocente pour prendre la place des pécheurs qui méritait cette sentence. Deux chapitres avant notre texte, Paul le mentionnait déjà, Romains chapitre 8, verset 3. « Car ce que la loi était incapable de faire, parce que l'état de l'homme la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a envoyé son propre fils avec une nature semblable à celle des hommes pécheurs. Et pour régler le problème du péché, il a exécuté sur cet homme, Jésus, la sanction qu'encourt le péché. » Oui, Christ a mis fin au régime qui condamnait tout homme qui ne suivait pas toute la loi. Et comment un pécheur peut-il être justifié? Paul nous donne justement la réponse tout au long des versets qui suivent. C'est par la foi, en mettant sa confiance en Jésus et en ce qu'il a fait pour nous. Et je sais que pour beaucoup d'entre vous, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et combien il est important de nous positionner de nouveau devant ces vérités-là et de nous dire, est-ce que c'est vraiment ce que je crois? Ou est-ce que je doute de mon salut? La seule voie possible, ça c'est mon deuxième point, la seule voie possible, c'est donc la foi. La seule voie possible pour le salut, l'unique moyen prévu par Dieu, l'unique, il n'y en a pas d'autre, l'unique moyen, c'est la foi. C'est l'unique chemin à emprunter. Et Paul va passer par un autre texte de Moïse pour nous en faire part. Regardez les versets 6. « Mais voici comment s'exprime la justice reçue par la foi. Ne dis pas en toi-même qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ. Ou bien qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est toute proche de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Cette parole est celle de la foi et c'est celle que nous annonçons. » Alors, cela fait partie des passages difficiles de notre texte. Qu'est-ce que Paul veut dire aux chrétiens de Rome en reprenant ici les termes de Deutéronome 30? Eh bien, si le seul moyen d'être justifié, c'est la foi, alors ne commençons pas à raisonner comme si Christ n'avait rien fait. Ne demandons pas s'il y a besoin de monter au ciel ou de descendre dans l'abîme. Christ l'a fait. Certains commentateurs estiment que ces expressions désignent en fait ce qui est de l'ordre de l'impossible. Qui peut monter au ciel? Essayez. Je voudrais bien vous y voir. Faut-il réaliser l'impossible, pour le dire autrement, faut-il réaliser l'impossible pour être justifié, pour obtenir la justice de Dieu? Eh bien, la réponse est non. Il ne faut pas faire l'impossible pour pouvoir être justifié. Parce que dit cette justice par la foi? Que la parole est toute proche de toi. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Dans le contexte premier, cette parole en question est la loi. C'est cette loi qui est toute proche de toi. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Mais Paul ici l'associe à la parole de l'Évangile. Et comment cette foi s'exprime-t-elle? Puisque cette parole appelle à la foi. Comment cette foi s'exprime-t-elle? Eh bien, nous voyons au verset suivant, versets 9 et 10. « En effet, si de ta bouche, tu déclares que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur, tu crois que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste. Celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. » La foi est affaire de cœur et de bouche. Il faut prendre cela ensemble. L'un ne va pas sans l'autre. Ce que nous pouvons confesser avec notre bouche trouve d'abord son origine dans ce qui se trouve dans notre cœur. Et c'est bien sûr dans la mesure où je crois que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts que je peux confesser oralement que Jésus est Seigneur. C'est dans la mesure où je crois avec confiance que c'est Dieu qui a œuvré pour mon salut que j'obtiens la justification. Oui, la foi est bien une question de confiance. Ce n'est pas simplement adhérer à des vérités ou croire que c'est vrai. C'est une question aussi de confiance. Et Paul cite de nouveau Ésaïe 28, verset 16, lorsqu'il reprend ce verset, au verset 11. L'Écriture dit « Celui qui met en lui sa confiance ne connaîtra jamais le déshonneur, ne sera pas couvert de honte. » Celui qui met en lui sa confiance ne connaîtra jamais le déshonneur. Donc, non pas confiance dans mes accomplissements ou dans mes œuvres ou dans mon obéissance à la loi, mais confiance totale en mon Sauveur, en Dieu qui sauve celles et ceux qui croient. Ainsi, c'est ce que nous lisons au verset 12 et 13, ainsi il n'y a pas de différence entre juifs et non-juifs, car tous ont le même Seigneur qui donne généreusement à tous ceux qui font appel à lui. En effet, il est écrit, tous ceux qui invoqueront le Seigneur seront sauvés. Au chapitre 3, Paul disait qu'il n'y avait pas de différence entre les hommes, car tous avaient péché et étaient privés de la gloire de Dieu. Et ici, il dit, il n'y a pas de différence entre juifs et non-juifs, car tous ont le même Seigneur, qui donne généreusement à tous ceux qui font appel à lui. Oui, il y a une égalité entre juifs et non-juifs face au salut, c'est qu'ils ont le même Seigneur. Ce n'est pas juste le Dieu des juifs, même si c'est à eux qu'il s'est révélé en premier, mais c'est aussi le Dieu des non-juifs. Et c'est ce même Seigneur qui donne généreusement à tous ceux qui l'appellent, à tous ceux qui l'invoquent, à tous ceux qui le prient, à tous ceux qui comptent sur lui, qui s'attendent à lui, qui ont foi en lui. Tout est résumé dans ce verset de Joël 3, verset 5. Tous ceux qui invoqueront le Seigneur seront sauvés. Il n'y a pas écrit « tous ceux qui obéiront à la loi seront sauvés ». Il n'y a pas écrit « tout ce que j'accomplirai de bien dans ma vie me permettra d'être sauvé ». Non, tous ceux qui invoqueront avec confiance, avec totale dépendance, tous ceux qui invoqueront le Seigneur seront sauvés. Et c'est une affirmation, une promesse ici. Et dans ce même chapitre de Joël chapitre 3, Dieu déclare qu'il déversera son esprit sur les membres de son peuple. C'est ce même chapitre-là, où d'abord il annonce qu'il répandra son esprit sur les membres de son peuple. Et ce sont les mêmes, eux, les membres de son peuple, qui feront appel au Seigneur et qui seront sauvés. Ce matin, posons-nous cette question. Suis-je toujours en train de suivre cette voie ? Suis-je toujours en train de suivre cette voie de la foi ? Ai-je encore l'assurance de mon salut ? Suis-je certain, certaine, que le verdict final à mon sujet lors du jugement dernier, ce sera justifié ? Et sur quelle base suis-je jugé ? Sur la base de mes œuvres ? Alors comme nous l'avons dit, je suis perdu. Sur la base de ce que Jésus a accompli pour moi ? Alors oui, je peux croire ce que Paul nous dit ici, je serai sauvé. Si j'ai placé ma confiance en Jésus, j'ai l'assurance d'être sauvé dès maintenant. Et je suis dans l'attente confiante du salut à venir. Lorsqu'il n'y aura plus de larmes, plus de douleurs, plus de péchés, mais uniquement la présence glorieuse de mon Seigneur. Et cette partie du salut, je ne le vis pas encore, mais je l'attends avec impatience. Tous ceux qui l'invoqueront seront sauvés. Plusieurs d'entre nous connaissent ce verset qui dit « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Il n'y a vraiment rien d'autre à accomplir pour notre salut. La seule voie à suivre, c'est celle de la foi, de la confiance en Jésus-Christ. Et si tu as compris ce que Christ a fait pour toi ce matin, si tu as saisi ce que signifiait son sacrifice et sa résurrection, alors lui fais-tu confiance aujourd'hui ? Lui fais-tu confiance aujourd'hui en délaissant tout autre recours, tout autre chemin, tout autre moyen d'être justifié ? Pour ton salut, est-ce qu'aujourd'hui, tu lui fais encore confiance ? Soyons clairs que la foi ne peut se réduire à la toute première décision au début de la vie chrétienne. Ce n'est pas parce qu'au début de ma vie chrétienne, j'ai dit oui, que j'ai mis ma confiance en Jésus, que je ne dois pas renouveler jour après jour cette confiance. Je ne peux pas me contenter de la première décision. Je ne peux pas me dire « j'ai décidé un jour et maintenant je peux mener ma vie comme bon me semble. Non, là, à coup sûr, il y a un souci. Là, à coup sûr, ce n'est pas la foi dont il est question ici. Parce que cette foi en Christ s'inscrit dans une relation continuelle, constante avec le Seigneur. Pas juste à une décision qu'on a prise il y a peut-être 20 ans de cela, pour les plus âgés. La foi s'exerce tous les jours et tout au long de notre vie ici-bas. C'est tous les jours que je fais confiance à mon Sauveur, que je compte sur sa grâce pour me garder et pour me sauver. Demain matin, quand vous vous réveillerez, eh bien, il faudra de nouveau renouveler cette foi. Tous les jours. Oui, c'est comme dans une relation avec une personne. Vous ne lui faites pas confiance une fois pour toutes. C'est une confiance que vous avez constamment. Et malheureusement, comme nos prochains peuvent être faillibles, eh bien parfois cette confiance est abîmée. Mais avec Dieu, il n'en est pas de même. Nous pouvons avoir entièrement confiance en lui, constamment. Une confiance totale. Mais une confiance qui s'inscrit dans une relation avec lui. Et je voudrais simplement lire Galates chapitre 2, verset 20, où Paul dit « Ma vie en tant qu'homme, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu, qui par amour pour moi s'est livré à la mort à ma place. » Ma vie en tant qu'homme, donc tout au long de ma vie en tant qu'homme, je la vis maintenant dans la foi. Pas en dehors de la foi, dans la foi au Fils de Dieu. À aucun moment je dois cesser de vivre dans la foi. C'est une affaire de tous les jours. Tous les jours, jusqu'à ce qu'il me rappelle ou jusqu'à ce qu'il revienne. Quel chemin sommes-nous en train d'emprunter? Une voie sans issue où il s'agit de gagner notre salut par nous-mêmes, comme le faisaient les Israélites, ou bien la seule voie que Dieu a prévue et qui passe par la foi confiante en Jésus. Et j'aimerais considérer à présent un dernier élément qui est évoqué par l'apôtre Paul au sujet des Israélites. Cet élément, c'est cet obstacle qui se tient sur leur route. Oui, ils ont buté contre la pierre qu'est Jésus, mais ils ont un obstacle qu'ils posent eux-mêmes devant eux et qui s'appelle l'incrédulité. À l'ère des fake news, des arnaques et de l'intelligence artificielle, il est devenu facile d'être incrédule. Nous ne savons plus où donner de la tête et quoi croire. Quand nous voyons une image, une vidéo, un mail, il nous faut plus de temps pour y accorder du crédit. Et dans ce domaine, nous faisons bien d'avoir un esprit critique. Nous faisons bien de nous montrer parfois sceptiques. Nous faisons bien d'être fréquemment incrédule. Mais face à la vérité, face à la parole de Dieu, face à Dieu lui-même, l'incrédulité est tout sauf une bonne chose. C'est un drame, une tragédie quand une personne se montre sceptique en entendant le message de l'Évangile. C'est un drame. C'est terrible quand cette personne ne veut pas croire. C'est terrible parce que nous lui parlons du salut, nous lui parlons du moyen d'être sauvé, nous lui parlons de la personne qui peut la sauver. À partir du verset 14, nous voyons une succession de questions qui nous rappellent le lien entre le message entendu et la foi, entre la bonne nouvelle prêchée et la foi. Et on connaît bien cette série de questions, versets 14 et 15. Mais comment feront-ils appel à lui s'ils n'ont pas cru en lui? Et comment croiront-ils en lui s'ils ne l'ont pas entendu? Et comment entendront-ils s'il n'y a personne pour le leur annoncer? Et comment y aura-t-il des gens pour l'annoncer s'ils ne sont pas envoyés? Une série de questions logiques qui indiquent qu'il faut, tout simplement, qu'il faut des chrétiens qui soient envoyés par Dieu pour annoncer le beau message de l'Évangile et qu'ainsi des gens répondent par la foi. Voilà ce que met en évidence cette série de questions. Il faut des gens qui soient envoyés par Dieu pour annoncer le beau message de l'Évangile et qu'ainsi des gens répondent par la foi. Et Paul souligne ce beau ministère d'être messager justement de l'Évangile en citant Ésaïe 52, verset 7. « Qu'ils sont beaux, les pas ou les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Est-ce que vous trouvez que vos pieds sont beaux ? Bien sûr, ici, nous avons une image, quoique une image valorisante, qu'ils sont beaux les pas de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Dans le contexte d'Ésaïe, la bonne nouvelle était adressée aux exilés pour leur dire qu'ils vont bientôt, qu'ils vont pouvoir quitter Babylone parce que l'Éternel est venu pour les libérer. Mais combien plus grande est la bonne nouvelle lorsqu'il s'agit de parler de la délivrance opérée par l'œuvre de Jésus-Christ ? Celle que tous les peuples doivent entendre, pas simplement Israël. Et toute la fin de notre texte, à partir du verset 16, indique que les Israélites, eux, l'ont entendu, cette bonne nouvelle. Depuis la Pentecôte, les apôtres n'ont cessé de porter ce message auprès des Juifs, dispersés ici ou là. Si vous vous souvenez aussi de l'habitude de l'apôtre Paul, eh bien, dans les villes qu'il visitait, il allait d'abord dans les synagogues pour y annoncer la bonne nouvelle. Donc, Paul peut le dire par expérience avec le verset 16, malheureusement, tous n'ont pas obéi à cette bonne nouvelle. Ésaïe déjà demandait, Seigneur, qui a cru à notre message ? Malheureusement, tous n'ont pas obéi à cette bonne nouvelle. Nous y voilà, c'est l'incrédulité dont il est question ici. Le fait de ne pas accorder de crédit au message qui vient de Dieu. Voyez comment cela est formulé. Tous n'ont pas obéi à cette bonne nouvelle. Mais qu'est-ce que commande la bonne nouvelle ? Quel est le commandement de l'Évangile ? De mettre sa confiance en Jésus-Christ. Ils n'ont pas obéi à ce que Dieu a commandé par ce message de l'Évangile. Ils n'ont pas cru en cette parole qui vient de Dieu. Ils ont réagi comme nous, on réagirait face à un mail frauduleux. Mais c'est pour leur perte qu'ils réagissent ainsi. Et Paul montre bien au verset 17 que la foi est liée au message entendu et que ce message, l'Évangile, est la parole de Christ. C'est Christ le premier qui annonce ce message avec toute la compréhension que nous en avons aujourd'hui. C'est lui qui éclaire les disciples sur le chemin d'Emmaüs en indiquant que les Écritures parlaient de lui et qu'il devait souffrir avant d'entrer dans la gloire. C'est lui qui rend explicite ce qui était voilé pour beaucoup, à savoir que c'est lui qui a porté le salut par sa vie, par sa mort, par sa résurrection. D'où ces appels nombreux à venir à lui, à croire en lui, à lui faire confiance. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. N'est-ce pas un appel à la foi ? Les apôtres, par la suite, n'ont fait que transmettre ce message, être les porte-parole de ce message. Et nous, à notre tour, eh bien, c'est aussi ce que nous annonçons. Venez à lui. Croyez en lui. Car c'est lui qui est mort pour nos péchés. C'est lui qui a vaincu le péché et la mort. C'est lui qui est ressuscité d'entre les morts et qui intercède aujourd'hui pour nous. Croyez en lui. Mais Paul fait état de l'incrédulité de ses compatriotes. La responsabilité leur retombe dessus parce qu'ils ont entendu ce message et qu'ils l'ont rejeté. Ils l'ont entendu et n'ont pas obéi. Et Paul cite encore d'autres textes que je ne vais pas commenter, mais simplement pour relever le contraste entre d'un côté les Israélites qui n'ont pas voulu de ce message et de l'autre les nations, les autres nations, les païens, qui eux n'avaient pas les mêmes privilèges qu'Israël et qui ont bénéficié de la grâce de Dieu. Nous le voyons encore aujourd'hui. Les autres nations, qui sont-elles, si ce n'est nous ? Nous qui continuons de venir à la foi. Que ce soit du temps d'Ésaïe ou du temps de Paul, les Israélites se sont montrés rebelles à Dieu. Et pourtant, simplement pour mentionner le verset 21, voyez l'attitude patiente de Dieu. À longueur de journée, j'ai tendu les mains vers un peuple désobéissant et rebelle. À longueur de journée, j'ai tendu les mains vers un peuple désobéissant et rebelle. Je pense qu'on ne peut pas imaginer toute la portée de cette parole que Dieu prononce à l'égard de son peuple. Ce peuple qu'il a choisi. Il a choisi les ancêtres de ce peuple. Il a fait de ce peuple son peuple. Et pourtant, c'est un peuple rebelle et désobéissant. Et je terminerai en disant que l'incrédulité révèle à coup sûr combien le cœur de l'être humain, pécheur, est dur. L'incrédulité révèle cela, combien le cœur est dur. C'est l'état réel du pécheur qui ne veut pas de Dieu. Et il ne faut pas moins qu'un miracle pour que ce cœur de pierre devienne un cœur de chair. Il ne faut pas moins que la puissance de Dieu pour provoquer ce passage de la mort à la vie. Il ne faut pas moins que la grâce de Dieu pour que le message entendu suscite la foi. C'est pourquoi, comme l'apôtre Paul, si nous désirons que nos proches aient cette foi en Jésus, il nous faut prier le Dieu qui seul peut accomplir ce miracle, qui seul peut vaincre l'incrédulité. Et pour beaucoup d'entre nous, c'est ce qu'il a fait. Il est venu à bout de notre incrédulité. Donc Dieu peut le faire pour bien d'autres. Mais prions pour cela, vraiment. Demandons au Seigneur vraiment pour. Paul le dit, je désire que les Israélites soient sauvés et je prie instamment pour ça. Je sais que ça demande beaucoup de persévérance. Parfois de prier des années et des années pour des personnes qui ne se tournent résolument pas vers Dieu. Mais en fait, en même temps, c'est tout ce que nous avons. Parce que seul Dieu peut changer le cœur de cette personne. Vous pourrez lui sortir tous les arguments que vous avez, toute l'apologétique que vous maîtrisez. C'est seul Dieu qui fera la différence. Donc il nous faut lui demander et prier. Si c'est réellement ce que nous voulons. Pour rester dans la métaphore de la route, nous avons vu avec l'apôtre Paul que Dieu n'offre pas plusieurs itinéraires, plusieurs chemins possibles. Il y a clairement un chemin qui nous éloigne du salut dès lors que nous comptons sur nous-mêmes et dès lors que nous comptons sur l'illusion de pouvoir répondre à tout ce que Dieu exige. Et il y a clairement un chemin unique qui conduit à la justice de Dieu, au salut. Bien sûr, Jésus dit lui-même qu'il est le chemin. Et c'est bien une invitation à passer par lui, à passer par sa personne, à croire en lui, à être en relation avec lui. L'évangile est le message qui appelle à cette foi confiante en Christ. Et si ce matin, vous vous êtes rendu compte que vous vous êtes trompé de chemin, il est encore temps de considérer le moyen que Dieu donne pour être sauvé. Croyez en lui. Croyez en Jésus. Et cela suffit. Amen.